Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir avec la participation de Lélie Anvar. Réalisé par Marie-Christine Clauset, préparé par Marie Dalquier, avec à la technique Stéphane Desmonts. Aujourd'hui, je reçois Catherine Chalier pour parler de la traversée de la nuit. Catherine Chalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Et vos livres s'intéressent en particulier à la rencontre complexe, souvent conflictuelle, entre la source juive et la source philosophique de notre culture. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur Lévinas, ainsi que sur d'autres philosophes comme Maïmonide, Spinoza, Rosenzweig. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre dernier livre que vous avez publié récemment aux éditions du Seuil, « La nuit, le jour, au diapason de la création ». Vous montrez au début de ce très bel ouvrage que la nuit et le jour sont deux métaphores que l'on utilise très couramment pour évoquer des expériences humaines assez fondamentales, assez radicales. La nuit évoque évidemment spontanément la souffrance, l'épreuve, les ténèbres, l'angoisse. Le jour évoque assez spontanément la joie, la lumière, la réussite, le bonheur, l'accomplissement. Et vous dites qu'il y a quelque chose de vrai dans cette distinction, qu'il y a une vraie profondeur, et en même temps qu'il ne faut peut-être pas en rester là, que les choses sont plus complexes. Alors expliquez-nous ces deux métaphores de la nuit et du jour, qu'est-ce qu'elles signifient pour vous et pourquoi vous avez eu envie d'écrire un livre sur ce sujet?
Oui, parce qu'il me semble que quand on emploie ces métaphores, d'une part, on n'est pas assez attentif à la réalité cosmique que représentent la nuit et le jour. Et donc cette métaphore risque de laisser de côté la sensibilité au cosmos, qui me semble tout à fait importante, et de penser seulement l'homme à son niveau, ce qui est une tendance moderne par excellence. Alors ça, c'est un premier point. Et d'autre part, parce que souvent, la nuit, c'est surtout la nuit qui est mal vue, en quelque sorte.
Et la mauvaise presse.
Et la mauvaise presse, parce qu'en français, quand on dit « je suis dans la nuit », eh bien, c'est comme vous venez de le dire, sorte.
Et la mauvaise presse.
Et la mauvaise presse, parce qu'en français, quand on dit « je suis dans la nuit », eh bien, c'est comme vous venez de le dire à l'instant, le sentiment qu'on est égaré ou dans des souffrances dont on ne voit pas l'issue, dans le deuil, etc. Et donc j'ai essayé de réinterroger ces métaphores c'est un premier plan, aussi bien sur le plan existentiel que sur le plan historique, que sur le plan spirituel, parce que ces métaphores, on les retrouve dans ces divers registres de la vie humaine. Mais auparavant, et peut-être pour le faire à bon escient, enfin du moins j'ai essayé, c'est de repenser les grands textes religieux et singulièrement la Bible qui nous parlent de l'apparition première de la nuit et du jour, en cherchant dans ces grands textes, non pas une vérité scientifique évidemment, mais une signification profonde qui pourrait toujours être importante pour nous aujourd'hui, à la fois sur la nuit et le jour, mais surtout, d'une part, sur la différence que j'expliquerai tout de suite entre la nuit et les ténèbres, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et sur le lien que j'appelle l'alliance d'un terme biblique entre la nuit et le jour, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas les prendre de façon séparée. On ne peut pas prendre la nuit et refuser le jour ou garder le jour en refusant la nuit. Et alors, si on se réfère au premier verset de la Bible, que évidemment beaucoup de gens connaissent, on s'aperçoit que Dieu crée d'abord un état de sa création ténébreuse, silencieuse, tohu-bohu. Ça, c'est le premier état de la création. Et on retrouve ce thème dans les grands mythes grecs et sûrement dans d'autres grandes mythologies que je ne connais pas nécessairement. C'est-à-dire que le premier état de la création, c'est un état de ténèbres, de tohu-bohu. C'est-à-dire le tohu-bohu, ça veut dire de désordre absolu, d'une impossibilité de s'orienter et donc de désarroi et d'angoisse, si on le pense à l'échelle humaine.
Donc le chaos précède le cosmos, on
le
pourrait dire.
Le chaos précède le cosmos, pour parler en termes grecs. et donc, si on regarde le texte biblique, ensuite, dans le deuxième temps, Dieu dit, donc c'est la parole qui va faire émerger la réalité de la lumière, comme on le sait, et cette lumière va se distinguer entre le jour et la nuit. Mais la nuit n'équivaut pas aux ténèbres. La nuit, c'est cette part précisément de lumière liée au jour qu'elle promet, elle promet le jour, et qui est arrachée aux ténèbres. Et alors, ce qui est intéressant sur ce récit, si on le regarde de près, c'est que si on le compare, par exemple, avec et des mythologies anciennes ou des textes d'Hésiode, on pourrait penser que c'est la même chose. Mais en fait, il y a une différence très, très profonde entre la Bible et donc les grandes religions qui s'en réclament, christianisme, islam aussi à sa façon. La nuit et le jour sont des créatures qui viennent parce qu'il y a une parole qui les dit. Alors que lorsque l'on regarde les textes d'Hésiode, par exemple, eh bien, c'est le chaos lui-même qui a la possibilité de faire émerger, par ses propres forces, la nuit et le jour. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout à fait différent, puisque c'est vraiment cette intervention de la parole qui fait apparaître la lumière et qui donne cette première alliance de la nuit et le jour. Et Dieu nomme la nuit et le jour. C'est ces deux premières créatures et deux créatures qu'il nomme, Laïla la nuit et puis Yom le jour.
Alors, oui, c'est ce qui fait la spécificité effectivement du monothéisme, c'est cette intervention d'un principe créateur qu'on appelle Dieu qui va effectivement agir sur l'ordre du monde, sur l'ordre de la nature pour lui donner un sens, une signification.
Oui. Sauf que dans la Bible, ce n'est pas présenté comme un principe, parce qu'un principe, d'une certaine façon, il est une création intellectuelle de notre esprit pour justement penser à un point d'arrêt dans le raisonnement à partir duquel les choses peuvent être. Alors, la Bible, comme vous le savez, ne parle pas le langage de la philosophie, donc de toute façon, elle ne parle pas de principe du tout, mais elle fait intervenir une parole, et c'est une parole qui fait émerger des distinctions. si on garde l'idée de parole, je pense que c'est extrêmement important parce que même à l'échelle de notre vie existentielle, spirituelle ou historique, la parole, même si elle n'est pas d'ordre divine, la parole est aussi ce qui fait apparaître des distinctions, ce qui fait émerger hors du tohu-bohu. C'est vrai même d'un point de vue psychique.
Oui, ce qui organise la psyché, le conscient et l'inconscient,
tout
etc.
Tout à fait. Alors, le point sur lequel je voudrais peut-être attirer l'attention, c'est que le tohu-bohu dans le texte biblique, ce n'est pas rien. C'est-à-dire, c'est pas à partir du moment où Dieu aurait fait apparaître la lumière et puis donc la nuit et le jour, et bien voilà, tout est bien organisé désormais. Le tohu-bohu, il est pensé comme une réserve de force de désorganisation, comme une puissance qui risque de détruire cet équilibre fragile. C'est comme si toute notre vie psychique, spirituelle, intellectuelle, existentielle, s'arrachait grâce à la force de la parole de ce tohu-bohu qui ne se laisse pas faire, si je vais employer un langage comme ça simple, c'est-à-dire qui essaie de ressurgir, qui profite de notre inattention à la parole, au verbe, pour ressurgir dans nos vies. Et on peut très bien le penser à son échelle propre, comment nous sommes menacés par le retour du tohu-bohu, c'est-à-dire des ténèbres, et non pas la nuit.
Ce qui me paraît déjà intéressant, je vous interromps quelques instants, dans ce que vous dites, c'est que ce qui est dit dans la Bible pour la création du monde, au fond, selon vous, on peut l'appliquer à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce récit de la création divine peut s'appliquer à la vie spirituelle et psychique de chaque individu. Donc vous faites une transposition entre cette parole de la Genèse et la vie de tous les croyants qui se reconnaissent dans cette parole. Et vous nous expliquez déjà qu'on peut lire ce texte non pas simplement comme un texte des origines du monde, mais aussi un texte qui parle à chacun de, je dirais sans doute, sa vie, son rapport à la transcendance, sa spiritualité.
Oui, tout à fait. Et je préciserai encore une chose. D'une part, le récit de la création, l'idée même de création, elle est pensée dans la tradition juive, mais aussi d'ailleurs chez bien des philosophes comme Descartes, comme continuer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un très très ancien moment du monde où ça s'est passé comme ça et maintenant c'est fini. C'est-à-dire que cette création, elle est de chaque instant. C'est-à-dire cette menace des ténèbres, cette apparition de la nuit et du jour, elle est de chaque instant. Ensuite, lire ce texte comme nous révélant à nous-mêmes des dimensions de notre être psychique, spirituel ou existentiel, oui, c'est tout à fait ainsi que je le lis. Je ne le lis pas comme nous donnant simplement des idées sur ce que pensaient les anciens Hébreux qui ont écrit ces textes ou les anciens Mésopotamiens, etc. Parce que là, ça serait simplement bon, un savoir intéressant. Mais je le lis comme révélant. Pas comme révélation, mais comme révélant de nous-mêmes, comme une possibilité de nous aider à lire en nous-mêmes et à déchiffrer et à comprendre des expériences qui peuvent être pas simplement celles des croyants, des expériences d'ordre existentiel, psychique ou spirituel qui peuvent être celles de beaucoup de personnes.
Alors dites-nous justement, pour tout être humain, qu'est-ce que ça peut impliquer cette présence continuelle des ténèbres, puisque vous nous dites que le tohu-bohu, les ténèbres originelles, restent toujours présentes, et cette distinction ensuite de la nuit et du jour. Comment vous l'appliquez ensuite à la vie humaine ?
Ce qui me semble très important, c'est d'abord donc de bien dissocier les ténèbres de la nuit, parce que si on ne le fait pas, on ne comprend pas que notre vie s'arrache ou est arraché à chaque instant donc à cette désorganisation et ces ténèbres primitives. Et d'autre part, surtout, si j'ose dire, on ne rend pas justice à la nuit et on ne rend pas justice non plus au fait qu'elle est une promesse de lumière, c'est-à-dire que la nuit promet le jour, que la nuit est en alliance avec le jour. Et alors là, on peut bien sûr le penser par rapport aux expériences des êtres humains et il y a des expériences de la vie dans lesquelles la nuit semble en effet ressembler aux ténèbres, je ne le nie absolument pas. Mais essayer de repenser comment comment la nuit est habitée par une clarté qui grandit et qui promet le jour, c'est, pour le dire avec un autre mot, mais très important pour moi, c'est renouer avec l'espoir.
Oui, ce que j'allais vous dire, est-ce que finalement, la différence entre la nuit et les ténèbres, c'est pas que la nuit est habitée par une promesse, par quelque chose qui lui permet d'espérer ne pas être sans arrêt, définitivement, dans ce désespoir, dans cette souffrance, dans ce malheur.
Oui, tout à fait. Et cette promesse, en effet, la Bible la fait reposer sur la présence de la parole qui lui donne son être de nuit. Et alors, là, c'est une idée quand même qui est présente dans beaucoup de traditions spirituelles, en tous les cas celles que je connais le mieux, juives et chrétiennes. Et ça se traduit souvent par l'idée que la nuit, il s'agit aussi de veiller. Et il y a un verset très connu du prophète Isaïe, « Veilleur, où en est la nuit ?» C'est-à-dire, il s'agit de veiller aux premières lueurs de l'aube, parce que l'aube va apparaître, l'aube va venir. Donc, alors, on peut aussi penser ça par rapport à l'histoire, par rapport à sa propre vie, vous voyez. Mais il s'agit de veiller, c'est pas forcément en attendant que ça se passe, que l'aube vient. Donc, c'est aussi, ce livre, je pense, un plaidoyer pour l'espoir, mais pas un plaidoyer pour l'espoir naïf et passif. Il s'agit aussi d'être des veilleurs.
Alors là, je me demande, en vous écoutant, si ce n'est pas justement ce qui fait peut-être une différence fondamentale entre le croyant et l'incroyant, parce que nous avons reçu ici, il n'y a pas longtemps, notre ami André Conche-Ponville, qui nous disait qu'il était, lui, pour une spiritualité du désespoir, dans lequel il n'y a aucune attente, aucune espérance, et qu'il... prenait la vie justement telle qu'elle est, sans autre espoir que ce qui est donné immédiatement et sans attente, si vous voulez, d'une promesse, d'un royaume, d'un bonheur ultérieur, sans l'espoir d'une rencontre avec Dieu. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne reçoit pas cette parole divine dont vous parlez, peut faire cette distinction entre les ténèbres et la nuit?
Bien entendu, parce que... Je veux dire, quand je parle de l'espoir, je ne parle pas forcément d'un espoir eschatologique ou pour la vie après la mort. Je pense à un espoir justement que la nuit ne nous enferme pas dans des ténèbres, qu'elle promet une clarté. Alors, cette clarté, elle peut se vivre à différents niveaux. Je suis sûre que M. Conche-Ponville vit des moments de clarté. J'en suis tout à fait convaincue, je veux dire. Alors, bien sûr... Il y a une dimension singulière dans le cas des religions bibliques en particulier, puisque pour elles, c'est cette parole qui donne son sens donc à cette promesse de la nuit qui va ouvrir sur le jour, et le jour lui-même qui va être en alliance avec la nuit, elle repose sur une parole, et donc l'attitude, en effet, de cette personne-là va être d'être toujours attentif à toutes les possibilités d'éclat de cette parole là où ils sont. Alors ça peut être, bien sûr, par priorité, dans l'étude, dans la prière, mais aussi dans la rencontre avec autrui. Par exemple, il y a une très belle réflexion dans le judaïsme. On se demande quand est-ce qu'on a le droit de dire la prière du matin, parce qu'il faut attendre que l'aube apparaisse. Et alors, dans le Talmud, on propose comme idée, qui est très belle, c'est à partir du moment où on peut percevoir un visage humain. Je pense que quelqu'un qui n'est pas nécessairement croyant peut comprendre cette pensée, et qu'un visage humain peut aussi lui parler de ce qu'il ne peut pas se donner à lui-même lorsqu'il est dans une nuit qui ressemble aux ténèbres.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Catherine Chalier pour parler de la traversée de la nuit. Catherine Chalier, vous avez choisi ce très beau morceau de piano et violoncelle. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et pourquoi ?
Il s'agit de chants juifs avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton et la pianiste Daria Orova. Donc j'aime beaucoup ce morceau de musique. D'abord, je trouve que le violoncelle est un instrument qui parle à l'âme de façon vraiment
c'est le chant
très
de l'âme.
Profonde. Oui. Et puis, par rapport aussi à ce dont nous parlions, justement, il me semble qu'il y a à la fois une certaine mélancolie et un espoir. Et donc, c'est deux aspects qui sont souvent liés d'ailleurs à la spiritualité chassidique, que je connais assez bien, me parle beaucoup en tous les cas.
Ça pourrait s'appeler la promesse de l'aube.
Oui, oui.
Donc, pour poursuivre notre discussion sur cette distinction que vous établissez entre le jour et la nuit à partir des ténèbres primordiales, est-ce que vous pouvez développer un petit peu donc, cette idée ? Mais avant qu'on revienne sur le contenu même de votre pensée, j'aimerais vous préciser un petit peu votre propre démarche, parce qu'on parle de la Bible, vous êtes philosophe. Comment au plan méthodologique, vous organisez votre réflexion entre d'un côté la lecture croyante de la Bible et d'un autre côté la philosophie ?
Il me semble que les grands textes religieux de l'humanité, en l'occurrence la Bible, sont une réserve de signification extrêmement profonde, extrêmement riche, que souvent le concept et la théorie dans leur sécheresse, leur nécessité aussi, pour voir clair, ne voient pas, ne perçoivent pas. Et par exemple, c'est assez frappant de voir que si on compare ce texte biblique dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis des textes des philosophes anciens, par exemple Aristote sur le cosmos, ces textes anciens des philosophes, ils sont périmés pour nous. Je ne crois pas, ils expriment tout un savoir et bien sûr ils sont de grande valeur, mais ce que je veux dire par là, je ne suis pas sûre qu'ils nous parlent, qu'ils s'adressent encore à notre sensibilité et à notre spiritualité de façon telle que nous puissions en déployer des significations nouvelles, parce que la science contredit les propositions des anciens sur le cosmos, etc. Tandis que, bien sûr, il ne s'agit pas de lire le texte de la Genèse comme un texte scientifique, ça serait bien sûr tout à fait aberrant, mais comme je disais à l'instant, comme une réserve de sens. Mais cette réserve de sens, elle ne se donne à vous que si vous allez vers ces textes, si vous les interrogez. Or, comment vous les interrogez ? Vous les interrogez avec vous-même, avec vos émotions, avec votre pensée, avec votre spiritualité, avec vos joies, avec vos peines. Et c'est vos questions posées à ce texte, ce dialogue avec les textes, qui en fait grandir des dimensions de signification qui n'apparaissent pas à première vue. Alors ça, c'est un mode de lecture qui peut être offert à quiconque s'en donne la peine.
Oui, vous voulez dire qu'il n'est pas nécessaire, absolument nécessaire, d'adhérer à la foi juive ou chrétienne, notamment pour pouvoir trouver du sens à ces textes bibliques.
Ah non, moi je ne pense pas que ça soit en rien un préalable, mais simplement le simple fait d'ouvrir ces textes et de penser que nous allons aller à la rencontre de significations, disons, tout à fait importante pour nous. Alors voilà, c'est le seul postulat qui me semble nécessaire à poser. Maintenant, si on ne pose pas ce postulat, mais si on en pose un autre qui consiste à dire ces textes n'ont rien à nous dire, ou bien il suffit de les étudier d'une façon historique et critique et c'est tout, eh bien en effet, on ne pourra pas faire le travail que j'ai essayé de faire à partir de là. Donc le seul postulat, c'est ces textes, en effet, si on sait interroger leur langage, de préférence dans la langue originale, si on se donne la peine d'étudier les commentaires qui en sont faits à travers les âges, si on les laisse nous interroger nous-mêmes, oui, ils nous répondent.
Alors sur ce thème qui est le nôtre aujourd'hui, des ténèbres et de la distinction ensuite par la parole entre la nuit et le jour, est-ce qu'il y a d'autres textes que ceux de la Genèse, dans la Bible notamment, on parlera peut-être d'autres choses après, mais dans la Bible, qui nourrissent cette réflexion et qui l'approfondissent ?
Oui, ce thème de la nuit et du jour est constant dans le texte biblique. Alors, il se déploie en particulier dans le fait que la religion juive, comme d'ailleurs les autres grandes religions, était souvent au diapason, les prières, pour être plus précise. Et anciennement, quand il y avait le temple, les sacrifices étaient au diapason des mouvements du cosmos. C'est-à-dire que l'homme n'est pas pensé comme faisant exception à la nature et au cosmos. L'homme est cette partie de la nature qui reconnaît l'appel qui lui est lancé et qui lui répond ou qui ne lui répond pas. Donc, mais c'est pas, il n'est pas en dehors de ce cosmos. Et peut-être nous, on a trop tendance à penser que l'homme s'explique simplement à partir de l'homme. Donc voilà, je citais tout à l'heure Isaïe, pardon, sur cette idée du veilleur, où en est la nuit. Bon, alors il y a des moments aussi où la nuit semble ressembler aux ténèbres. Ça, je ne le nie pas du tout.
Job, par exemple,
oui. Le sentiment de Job, c'est un sentiment d'être pris dans une souffrance tellement, tellement intense, tellement intolérable, que de toute évidence, elle ne promettra plus du tout le jour. Et donc, il y a même ce sentiment donc, d'être le jouet d'un Dieu qui se moque de lui, qui ne cherche pas du tout à lui répondre.
Je crois qu'il y a même un psaume qui dit « Même les lumières sont pour... Même la lumière est pour moi ténèbres ».
Oui, oui, c'est des moments
de déréliction profonde
et qui sont vécus aussi chez les grands spirituels. Par exemple, je cite dans le livre quelqu'un qui n'est peut-être pas très connu, qui est un rabbin qui se trouvait dans le ghetto de Varsovie et donc entouré de ténèbres tragiques. Or, ce rabbin, c'est ça qui m'intéresse dans sa démarche, si vous voulez. Jusqu'au bout, il a essayé de donner des leçons de Torah, donner des leçons à ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire de maintenir vivants des éclats de la parole dans ces ténèbres mêmes. Et pourtant, il n'attendait pas du tout de cela un secours. Ça, c'est très important de le dire. Il ne pensait pas du tout qu'un Dieu allait venir le secourir. C'était pas du tout. Mais tant qu'il était vivant, c'était ces étincelles de clarté. Il les maintenait dans l'âme de ceux qui étaient avec lui grâce à cette étude de la parole. Alors, voilà, ça, c'est aussi ces moments-là, je pense, paradoxalement, qui peuvent être une certaine clarté pour nous maintenant quand nous les lisons et quand nous sommes au fond de nos propres ténèbres, quels qu'ils soient, pour des raisons diverses, je veux dire, de penser à des personnes comme cela, il y en a d'autres bien sûr, c'est comme si, en tous les cas pour moi, ces personnes étaient des signes. Et donc la phrase veilleur où en est la nuit, peut-être aussi, c'est de continuer à percevoir qu'il y a des signes qui sont pour nous une dimension d'espoir.
Vous parliez du ghetto de Varsovie, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que ce mal absolu, ces ténèbres absolues qu'a été la Shoah au XXe siècle, a-t-il été le point de départ finalement de votre réflexion sur le mal, sur les ténèbres dont vous avez fait ce livre aujourd'hui?
Bah, c'est vrai que la réflexion sur le mal, sur la souffrance humaine, elle est, c'est sûr, au cœur de mon travail depuis longtemps. Un de mes premiers livres, c'était la persévérance du mal. Donc c'est une... Mais avec ce sentiment profond qu'il ne s'agit pas de lui céder à ce mal dont je vois l'emprise dans les hommes, dans le cœur des hommes, dans ce qu'ils font, dans l'histoire qu'ils mènent. Donc il faut essayer de ne pas lui céder tout ce qui est notre être profond. Et je ne lui oppose en rien, mais vraiment en rien, une croyance naïve dans un Dieu puissant qui viendrait nous sauver. Je pense que justement, le Dieu que nous demande de penser l'expérience profonde du mal, celle en effet de la Shoah, mais d'autres aussi, malheureusement, c'est justement d'un Dieu qui qui n'a pas cette puissance de venir nous secourir, mais qui nous a donné cette parole qui est celle qui peut nous maintenir hors de l'abîme.
Alors cette parole, c'est la parole divine donnée dans la Bible, ou est-ce que c'est aussi la parole que nous avons et qui nous permet nous-mêmes de nommer quelque chose, donc de distinguer, donc de trouver peut-être du sens ou une lueur à travers ce qui apparaît un chaos?
Oui, je pense que cela peut être ça, mais pour, disons, des spiritualités éduquées par la Bible, cette parole est aussi une parole qui vient à nous à partir d'une source qui nous est inaccessible. Et donc, cette parole qui vient à nous à partir d'une source qui nous est inaccessible, elle continue de s'adresser à nous d'une façon extrêmement ténue. Un petit peu comme dans la Bible, quand on parle Dieu était dans ce souffle ténu et pas dans le grand fracas. Et donc, si vous voulez, peut-être la différence avec une position qui rejetterait cette dimension, c'est que cette parole, elle s'adresse à nous, c'est-à-dire elle maintient une certaine alliance, et à nous de lui répondre. Avec cette difficulté, bien sûr, extrêmement compliquée, c'est pour l'entendre, il faut lui répondre.
Quels sont les penseurs dans la pensée juive qui ont, avant vous, travaillé sur cette question du mal, de la souffrance, de la nuit, des ténèbres, de la distinction du jour et des ténèbres? Est-ce que vous êtes appuyé aussi sur un certain nombre de penseurs comme Maïmonide ou Lévinas?
Maïmonide parle de la nuit et du jour dans son guide des égarés, et donc il fait bien cette distinction que j'ai faite tout à l'heure entre la nuit et les ténèbres. Par contre, dans sa réflexion sur le mal, c'est une réflexion plus d'ordre plus strictement philosophique, finalement, et pour lui, le mal est de l'ordre du non-être, comme beaucoup de philosophes le pensent, de l'illusion, et n'a pas de réalité propre. Or, si on donne au Tohu-Bohu cette puissance, justement, de destruction, de désorganisation, de décréation, pour employer un mot de Simone Veil, si on lui donne cette puissance de décréation, on ne peut pas penser le mal simplement comme un honnête. Moi, je ne le pense pas comme un honnête. Je pense que c'est vraiment une lutte profonde. Je crois qu'il faut davantage chercher, d'une part, dans la pensée mystique, en particulier la mystique juive, que je connais assez bien, mais aussi on trouve cette pensée du mal comme force, comme puissance, dans la pensée de Lévinas.
Et dans la pensée chrétienne aussi, j'imagine que vous avez étudié les mystiques chrétiens qui, comme Saint Jean de la Croix, par exemple, parlent beaucoup de la nuit, et d'une nuit au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire d'une nuit à la fois très douloureuse, mais en même temps qui peut être féconde d'un accouchement spirituel, d'un progrès intérieur, parce que c'est une nuit qui conduit au jour.
Oui, je parle de Jean de la Croix dans ce livre, et d'ailleurs je fais aussi un parallèle pour montrer qu'on trouve ce même cheminement dans la mystique chassidique, en citant un rabbin chassidique. D'ailleurs, donc il s'agit, en effet, dans le chemin vers Dieu, ce chemin vers Dieu, il implique une traversée de la nuit des sens, de la nuit de toutes nos facultés. Les mystiques juifs disent qu'il faut se défaire de nos habits, c'est-à-dire notre façon d'être adapté à ce monde, pour aller donc vers cette lumière de Dieu. Et alors, en effet, ces trajets mystiques, que ce soit celui de Jean de la Croix ou de ces rabbins chassidiques dont je parle dans ce livre, cette traversée de la nuit, elle est portée par l'espoir d'une rencontre, l'espoir d'une rencontre ultime, mais elle donne aussi à penser un Dieu qui se cache, un Dieu qui nous laisse dans le trouble. Bon, dans le texte biblique, par exemple, c'est souvent présent de façon extrêmement concrète avec la thématique du nuage, par exemple, du nuage comme une manière pour Dieu on ne peut pas le voir, donc il se donne dans le nuage et donc comment percevoir ce qu'il y a dans le nuage, il laisse voir sans voir. Donc
un texte chrétien qui s'appelle le nuage de l'inconnaissance.
Oui, oui.
Mais là on est au cœur, moi, de ce que je trouve le plus important dans votre propos, c'est-à-dire au fond On voudrait avoir le jour tout de suite. On voudrait vivre dans la lumière, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Je parle à un niveau humain trivial. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience que nous faisons tous. Nous recherchons cet épanouissement à la fois des sens, cet épanouissement intérieur. Nous recherchons la lumière. Et vous nous dites, en vous appuyant sur les textes bibliques, sur l'expérience des mystiques, que la nuit est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de la nuit pour vivre pleinement la lumière. Alors, pourquoi ça?
Écoutez, on peut prendre des exemples très concrets dans l'histoire. À chaque fois que les hommes ont voulu vivre le plein jour sans la nuit, ça a toujours été lié à des tragédies. Je veux dire que donner congé à la nuit, donner co congé au clair-obscur et prétendre jouir de la lumière pleine et entière, c'est toujours lié à beaucoup de souffrances imposées d'abord à ceux qui sont censés ne pas jouir de la même lumière que vous, et d'autre part, c'est une prétention dans laquelle les hommes se détruisent eux-mêmes. Je prendrai un exemple simple. Qui prétend par exemple jouir de la pleine lumière? Le fanatique. Le fanatique, il voit absolument, il sait absolument, il est absolument dans la clarté, il sait exactement ce que Dieu veut. Donc, lui prétend être dans la pleine clarté. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose de terrible. Le plein jour n'est pas fait pour nous. Nous avons absolument besoin du clair-obscur et de cette alliance entre la nuit et le jour. Et je crois que les spirituels dont nous avons parlé, mais aussi les peintres dont je parle un petit peu dans ce livre, le savent. Comment chercher la clarté dans la nuit, c'est ça notre tâche.
Et puis vous avez évoqué tout à l'heure cette idée qu'il peut y avoir un nécessaire dépouillement de soi pour grandir. C'est-à-dire peut-être que la nuit est quelque chose qui nous permet d'aller vers une sorte d'humilité ou d'état d'abandon, d'ouverture qu'on ne connaîtrait pas si on était dans la maîtrise absolue.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans la maîtrise absolue, précisément, on est d'autant plus violent qu'on ne veut pas voir ce qu'on repousse de façon très, très forte, parce que ça mettrait justement en question notre maîtrise absolue. Alors, on peut suggérer à ceux qui prétendent cela, en effet, un peu d'humilité, mais aussi on peut leur suggérer de regarder le jour et la nuit, donc de regarder le cosmos, de regarder aussi les œuvres des peintres qui vont chercher donc cette clarté dans la nuit, et puis aussi de lire des poètes ou des mystiques. Peut-être que ça les éveillera à cette part qu'ils ne veulent pas voir.
Ulachazir Rabbi.
Nous poursuivons notre traversée de la nuit en compagnie de Catherine Chalier. Catherine Chalier, je suis très touchée par les musiques que vous avez choisies. Celle-ci, ça ressemble à une prière juive.
Oui, c'est une prière du matin, c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc c'est la prière que nous disons toujours le matin, tous les matins. Et nous disons, Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. Tu l'as créée, tu l'as faite, tu me la retireras, mais tu me la rendras au dernier jour. Et donc c'est ça, c'est une prière qui est dite chaque matin. Et quand il dit l'âme que tu m'as donnée est pure, ça ne veut pas du tout dire bien sûr que la personne est sans faute, sans tâche, etc. Mais c'est, je crois, l'idée qu'on trouve bien développée dans la tradition juive, qu'il y a un point de notre âme qui est indemne du mal que nous faisons et que ce point est aussi indemne des illusions dans lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes et que ce point, donc là, c'est ce point de rencontre par excellence avec Dieu.
Nous allons continuer de parler de ce thème avec Lélie Envar. Bonsoir Lélie.
Bonsoir.
Alors, quels sont les textes que vous avez choisis aujourd'hui pour dialoguer avec Catherine Chalier?
Alors, le premier texte qui s'est presque imposé, je dirais, avec le thème que nous avions, c'est le psaume 22, un psaume de David, que j'ai choisi parce qu'évidemment, il est très lié à ce que vous venez de dire. C'est le fameux psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Parole que le Christ dit en croix.
C'est exactement pour ça que j'ai choisi.
En reprenant ce psaume.
Ouais. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'à la fois, le psaume en lui-même, on voit se déployer dans le psaume finalement tout ce que vous avez dit, à savoir qu'il faut cette traversée, ce sentiment d'abandon, cette façon qu'on a, quand on est livré à soi-même, quand l'âme est livrée à elle-même, elle retourne dans le tohu-bohu, dans cette angoisse extrême d'être entourée de bêtes sauvages et d'être perdue dans les ténèbres. Ça reprend l'idée que, évidemment, pour entendre Dieu, il faut lui répondre. Et en réalité, ce psaume, qui a été parfois un peu mal compris, je dirais, dans sa version évangélique, effectivement, le Christ a dit les premiers vers de ce psaume sur la croix, et on peut penser qu'à un moment, il s'est senti abandonné par le Père. Si on lit le psaume en entier, on comprend que, justement, il porte témoignage de ce dont vous avez parlé, à savoir que, dans ce monde, dans cette crucifixion, dans cette passion, ce qu'il traverse, c'est précisément les ténèbres pour assumer une nuit qui deviendra lumière. Donc j'ai vraiment le sentiment que s'il dit les premiers vers de ce psaume, il suggère tout le reste du psaume.
L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs.
L'un n'empêche pas l'autre, absolument. Au contraire, je dirais. Il faut ce dénuement, ce sentiment de dénuement, d'abandon, de perte à soi. Et en même temps, on va le voir, il y a une évocation par exemple du fait que Dieu nous a tirés du ventre de notre mère. Et là aussi, on a vraiment cette idée qu'après tout, la matrice de la mère, c'est une nuit. Mais c'est une nuit qui ensuite se termine dans
la
naissance. Voilà,
on donne
le jour, absolument. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis, mon Dieu. Le jour, j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, confiance, et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils échappaient, en toi leur confiance, et ils n'avaient pas honte. Et moi, ver et non pas homme, risé des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, il hoche la tête. Il s'est remis à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre, ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide, délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mon frère en pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la race d'Israël, car il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. « J'aurais aimé, Catherine Chalier, que vous nous disiez aussi un mot de ce psaume, car j'ai vraiment l'impression que ça résume beaucoup de choses dont vous parlez, en fait, dans votre livre, La nuit,
oui,
le jour.
Oui, bien sûr, c'est un psaume tout à fait important, et je pense que c'est un psaume, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans lequel, au fond, chaque être humain peut se reconnaître, c'est-à-dire qu'il est aussi révélant de ce que nous vivons dans des nuits qui commencent par ressembler à des ténèbres et qui, parfois, en tous les cas, conduisent à quelques clartés. Mais je suis très sensible, en particulier dans ce psaume, sur le tout premier verset, parce que « Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tant que nous pouvons dire ça, la clarté est encore un peu là.
Parce qu'on nomme, oui. Parce on qu'on nomme Dieu.
Parce qu'on nomme Dieu.
Non seulement, on nomme Dieu, mais on dit « Élie, mon Dieu ». C'est-à-dire, on nomme une relation, on parle d'une relation, on continue. Donc, ce n'est pas la déréliction absolue, c'est-à-dire, on nomme mon Dieu, c'est-à-dire cette relation qui est entre moi, qui suis complètement pris dans des ténèbres absolues. Et je sais que tu pour des raisons que j'ignore, tu m'as abandonné, c'est ça que je ressens. Mais je maintiens cette relation jusqu'au bout.
Et la parole ici est fondamentale pour faire précisément retourner à la clarté. On voit la fonction de la parole à la fois de la parole de Dieu et la parole de celui qui prie. Mmh. Et puis plus tard, la parole de David, du psaume, reprise par ceux qui la récitent en prière. Donc il y a vraiment une triple incidence de la parole dans nos vies.
Oui, tout à fait. Oui. Et donc c'est une adresse. Donc je crois que tant qu'on garde cette possibilité de cette adresse, les ténèbres n'ont pas gagné sur nous.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est être en relation, que ce soit en relation avec Dieu ou avec un être humain dans l'amour. Tant qu'il y a cette relation, on n'est pas totalement dans les ténèbres.
Oui, et quand on s'adresse, c'est-à-dire la parole ne fait pas reflux sur nous. Le pire, c'est quand la parole fait reflux sur nous. Alors à ce moment-là, elle peut plus nous donner de force. Et on peut très bien penser comment aussi chacun d'entre nous, même si nous... parce que nous devons parler à d'autres, eh bien, ce qui pouvait sembler ténébreux auparavant ou d'une immense souffrance, finalement, est dépassé. Parce que justement, le simple fait que l'autre est là va contribuer à nous aider, à éveiller en nous peut-être cette part de l'âme dont parlait le chant que nous avons entendu tout à l'heure.
Alors nous avons évoqué la tradition juive et chrétienne pour parler de ce thème de la nuit. Je crois que Lélie, vous avez aussi choisi un second texte là qui parle de la tradition musulmane.
Oui, en réalité, ce n'est pas un texte proprement mystique ou musulman. C'est un texte tiré du recueil lyrique de Majnoun, donc texte du 1er siècle de l'islam, c'est notre 8e siècle. Je trouve qu'il reflète bien... En fait, ce sont des poèmes d'amour adressés à une femme, Leïla, dont le nom signifie effectivement la nuit. Et Majnoun Leïla, c'est le fou de Leïla. C'est aussi un poète, et c'est un poète de la nuit, puisqu'il est amoureux d'une femme dont la chevelure brune lui rappelle la nuit. Et je crois que ces textes nous montrent bien qu'il y a aussi dans la pensée, je dirais, sémite, une glorification de la nuit qui est peut-être plus intense que dans la tradition arienne, par exemple. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue et qui relie, au fond, les deux traditions. Ô berger de la nuit, vois ce que m'ont coûté l'aurore et la douceur de ces premiers instants. Ah, que font-ils, ceux dont mon cœur est prisonnier? Où sont-ils? À la halte, ou quand le soir descend repartit de nouveau? Et que fait cette étoile pour toujours accrocher dans le cœur des amants? Demain, Leïla reprend la route matinale ou du soir. Ô, ces mots dans la nuit, pauvre cœur, cœur terrassé comme au filet la perdrix grise. Elle lutte sans fin, son aile reste prise. Au désert, deux petits sont là sans défenseur. Le vent souffle furieux et bouscule leur nid. En l'entendant rugir, il s'agite, il crie : Ô mère, il est grand temps, le soir est là, reviens. Mais cet espoir se perd dans la nuit. Tout est vain, et nul salut non plus ne viendra du matin. Ô berger de la nuit, vis ainsi qu'il te plaît. Moi, j'étais mort déjà quand je pouvais aimer.
Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go on its way. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more slinky folk dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come, done come.
Après ce beau chant de Lee Hazlewood, nous arrivons dans la dernière partie de cette émission avec notre invitée, Catherine Chalier. Lélie Envar, je crois que vous avez plusieurs petites annonces à nous dire pour l'agenda sur l'actualité justement de Catherine Chalier.
Absolument, l'actualité de Catherine Chalier. Il y aura le 18 février prochain à 19h30 une rencontre au musée d'art et d'histoire du judaïsme autour de votre dernier livre, La nuit et le jour, avec pour répondant le pasteur Marc Fessler, avec lequel vous avez écrit un livre, Judaïsme, Christianisme, l'écoute en partage. Donc je suppose que cette rencontre aura l'écoute pour partage. Il y aura également un colloque au Collège des Bernardins les 15 et 16 janvier, dont le thème est la transmission. Et donc vous interviendrez au cours de ce colloque, puisque vous avez aussi écrit un livre qui s'intitule « Transmettre de génération en génération ». Enfin, je voudrais aussi signaler la réédition d'un très beau livre que vous avez écrit il y a quelques années, Le Traité des larmes, Fragilité de Dieu, Fragilité de l'âme. Donc la réédition chez Albin Michel de ce livre, dans lequel vous avez parlé en fait des larmes et de la souffrance, de la fragilité. Donc c'est un thème que vous poursuivez depuis très longtemps. Et je dirais que c'est intéressant de lire ce livre en parallèle avec un livre de Sylvie Germain qui est aussi réédité chez Albin Michel et qui s'intitule L'écho du silence, les échos du silence.
Catherine Chalier, dites-nous un mot de la fragilité de Dieu, parce qu'on a parlé dans une autre émission avec un autre invité de la fragilité de l'homme. Alors dites-nous un mot de la fragilité de Dieu.
La fragilité de Dieu, je crois que j'en ai dit un mot d'ailleurs tout à l'heure, justement en pensant qu'il s'agit de penser Dieu en dehors des grands attributs que l'ontologie lui attribue le plus souvent, à savoir la puissance. Moi, je ne pense pas Dieu puissant. Je pense que, justement, il est fragile, il est aussi presque à notre merci, puisque si nous ne répondons pas à son appel, il ne va pas s'imposer à nous dans de grands fracas et dans de grandes évidences, nous le chasserons.
Je rappelle que votre livre, aux éditions du Seuil, qui a nourri le thème de cette émission, La nuit, le jour, au diapason de la création. Je signale également notre amie Catherine Clément, que vous retrouverez demain à 21h, publie également chez Albin Michel un éloge de la nuit. Donc vous voyez, les pensées convergent aujourd'hui autour de ce thème de la nuit, et Catherine Clément revisite un certain nombre de mythes. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous remercie beaucoup, Catherine Chalier, de nous avoir rendu visite dans Les Racines du Ciel. Bonsoir.
Merci à vous.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Philippe Dautet qui nous parlera de l'anthropologie biblique. Demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, Culture des autres, consacrée au dieu de Teotihuacan avec Hélène Fulgence. À mardi prochain, bonsoir à tous.